All right, we have a decision to make.
Alors, nous devons à présent prendre une décision. Nous avons 75 minutes avant la fin de la séance du fait de la réunion avec le GAC. Nous avons encore 40 discussions sur le RAA, 40 minutes sur le VI et 60 minutes sur les nouveaux GTLD. Adam est dans la salle, donc nous avons peut-être 130 minutes et bien sûr, nous ne parviendrons pas à vraiment approfondir les sujets. Nous avons moins de 75 minutes, en fait, pour traiter de tous ces sujets. Qu'en pensez-vous? Eh bien, dans la mesure où on a une réunion avec le GAC, je pense que nous devons la préparer, sinon nous allons entrer dans cette réunion sans savoir de quoi nous voulons parler. Ok, donc nous avons 65 minutes pour discuter de ces questions. Donc, comment voulez-vous procéder? Vous voulez compresser chacune des questions ou voulez-vous en supprimer quelques-unes? Que préférez-vous faire? Eh bien, je pense que la meilleure solution serait de les compresser un peu. Mais si on parle de nouveau GTLD, dans la mesure où il s'agit d'un sujet que nous aborderons avec le GAC, peut-être ceci nous permettra-t-il de gagner quelques minutes. Pardon, je vous ai mal compris, vous avez parlé trop vite. Et voilà, ce que nous voulons dire, c'est que nous allons essayer de compresser chacune des questions. Et les GTLD, nous allons en parler avec le GAC. Donc, est-ce qu'on essaie de compresser la question du GTLD ou pas, finalement? Non, nous en parlons et nous prenons le temps de le faire parce que il pourrait que nous devions porter cette question à la réunion du GAC. Donc, 40 minutes, une session de 40 minutes, Sébastien, avant de passer aux discussions sur le VI.
Sorry, Alan.
Donc, nous passerons à la discussion ensuite sur l'intégration verticale.
OK. Was the intent that we talk about that we defer?
Alors, si nous laissons de côté le RAA, c'est ça que vous essayez de dire en fait. Bon, moi, ça m'est égal, mais je veux que nous nous accordions aux priorités, c'est-à-dire que faisons-nous en premier? Eh bien, Carrie est ici, donc essayons de traiter d'abord du GTLD, non? C'est mieux. Parce que nous essayons ici de ne pas faire perdre leur temps aux gens. Alors, avec un objectif de 40 minutes, peut-être? Oui? Et donc, sans transition, je me tourne vers Karen dès qu'elle a préparé ses documents. Est-ce que c'est une présentation ou une ouverture au débat? Eh bien, je pense qu'hier, nous avons tous participé à la réunion à laquelle elle a réalisé un exposé très détaillé. Donc, nous pouvons peut-être passer immédiatement aux questions. Oui, ça me convient. Sébastien, est-ce que je peux vous demander de prendre mon rôle parce que je dois vous quitter quelques instants? Oui, sans problème. Alors, nous avons reçu une présentation bien approfondie hier de la part de Kurt, Karen et d'autres sur le DAG 4 et les nouveaux grands changements. Beaucoup d'entre nous étaient présents, donc je conseille que nous passions directement aux discussions, aux questions. J'aimerais vous rappeler que deux sujets sont à traiter avec le GAC. Premièrement, les nouveaux GTLD et plus spécifiquement les questions de morale et d'ordre public. Nous avons des problèmes sur les questions des MOPO, MAPO, donc ce sera au sujet de la discussion avec le GAC. Donc, si vous voulez vous y atteler, ce sera également très utile. Qui souhaite commencer? Evan? Je voulais simplement rebondir sur ce point-là. Karen, en ce qui concerne la question de morale et d'ordre public, évidemment, c'est le GAC qui a essayé de s'y atteler et d'émettre une position, mais quelle est la position du personnel là-dessus? Il me semble que le processus actuel est le système qui rencontre énormément de difficultés. Donc, a-t-on des idées de la part du personnel pour une solution alternative? Par exemple, une idée à laquelle nous sommes revenus souvent serait celle d'un mécanisme avec une liste de mots moraux pour que ce soit actif plutôt que de baser notre système sur les objections, comme c'est le cas actuel. Donc, quelles informations avez-vous sur cette question?
Merci pour la question. La moralité et l'ordre public dans ces domaines existent depuis le début. Il s'agissait des recommandations que nous avons reçues du GNSO, du processus de politique du GNSO. Les GTLD ne devraient pas donc enfreindre des normes acceptées internationalement du point de vue moralité et ordre public. Et alors, et donc, nous avons mis ceci comme un processus d'objection. Il y a eu une certaine intégration du développement. Vous pouvez faire un processus basé sur des objections, mais il faut donner certaines normes par lesquelles les décisions seront prises. Nous avons fait une enquête sur des systèmes légaux concernant des régions différentes du monde. Et c'est ce que vous voyez dans le guide de candidature maintenant. Il y a eu beaucoup de phases qui ont été également soumises à la consultation publique. Et ce que nous devons faire, je vais regarder rapidement le processus. Une des préoccupations avec la moralité et l'ordre public a toujours été que les sujets sont très larges et que n'importe qui pourrait payer les frais et soumettre des objections contre une candidature, et les personnes pourraient utiliser le processus de soumission de plainte pour ralentir exprès ou rendre les choses plus difficiles pour une candidature pour toute raison, parce qu'ils n'aiment pas le candidat ou ne veulent pas qu'il réussisse. Et ainsi, qu'est-ce que ce test fait? Ce test établit ceci assez tôt pour examiner donc les objections. C'est un test de base pour voir si il y a une identification. Dans le cadre des normes internationales, ou s'il y a d'autres indications que l'objection, par exemple, est en train d'abuser, si vous voulez, du processus. Et c'est là, nous sommes dans cette phase maintenant, et c'est quelque chose qui est bien sûr soumis aux commentaires publics, et concernant l'idée d'établissement d'une liste au lieu du processus d'objection. Vous savez, ceci a été examiné, bien sûr, avant. Il est souhaitable dans le sens que toute personne qui dépose sa candidature et regarde la liste sait que ceci peut être fait, ceci ne peut pas être fait. C'est un autre point qu'il sera difficile de mettre en œuvre, donc l'établissement réel de la liste. J'ai entendu, on a reçu plusieurs propositions, plusieurs suggestions, mais en termes, de ce que les gens pensent, mais nous n'avons pas vu. Il y a des discussions, des débats concernant d'autres approches, mais nous n'avons pas eu de propositions réellement spécifiques. Il s'agit donc d'une approche alternative. Merci, Karine. Est-ce qu'il y a un commentaire à ce point? Est-ce que vous voulez que nous passions à une autre question? Evan, vous voulez dire que... Non, pas un suivi, quelque chose de différent. Oui, vous pouvez vous exprimer. Il y a également une discussion demain sur le coût réduit pour les TLD communautaires. Ceci a été un problème que nous avons eu avec toute l'histoire. Et à diverses périodes, nous avons entendu parler de 85 000 $, une cible qui est mobile un peu. Il y a le mandat d'un côté et de temps en temps. Inofficiellement, si un bureau d'enregistrement n'a pas 185 000 $, il y a d'autres possibilités, je ne sais pas. J'ai l'impression que ceci n'est pas officiel, mais je l'entends trop souvent pour que ceci soit vraiment non officiel. Je voudrais une ventilation des éléments des 185 000 $. Est-ce que le personnel a identifié des zones où il pourrait y avoir une marge qui pourrait être utilisée par les groupes pour réduire les coûts, des coûts qui ne sont pas aussi nécessaires? Oui, est-ce qu'il y a une région, une zone où les coûts de mise en œuvre pourraient être plus réduits? Qu'est-ce que le personnel est en train de faire pour nous aider donc à ajuster cette question à l'égard de la communauté? Le groupe est un groupe commun entre SO et AC, résultant de la résolution du Conseil à Nairobi. Il devrait y avoir plus de travail concernant le type de soutien qui pourrait être octroyé aux candidats au GTLD dans les économies moins développées. Et je pense que ceci est très important. C'est un travail très important. En termes de frais, le soutien financier est un type de soutien qui pourrait être octroyé à des candidats. En termes de 185 000 $, donc c'est les frais d'évaluation qui se trouvent en place depuis quelque temps dans le guide de candidature. Initialement, lorsque nous avons publié ce chiffre, il y avait une ventilation des coûts. Il y avait trois parties. Une partie, c'était les frais les coûts de développement, donc les frais de développement qui couvraient que l'ICANN avait déjà investi dans la finalisation du processus de politique et la mise en application. Une autre portion avait un rapport avec le traitement. C'est ce que nous avions estimé pour chaque candidature qui était introduite, qui passait la procédure. Et puis nous avions un troisième élément qui avait rapport avec les risques, les éventualités, dans le cas où beaucoup plus de ressources seraient nécessaires dans des circonstances imprévues, et où le coût serait plus élevé que le coût prévu initialement. Le but pour le programme est que ce programme soit autofinancé, s'autofinance. J'ai vu la première mise à jour du rapport du groupe de travail, et je crois que l'une de leurs suggestions, que la portion de développement ou historique du coût ne s'applique pas dans certains cas. C'était ça leur suggestion. Je pense qu'il a été noté également dans le rapport qu'il y a d'autres types d'endroits où le soutien financier pourrait jouer un rôle. Par exemple, quand le registre serait opérationnel, il pourrait y avoir une réduction des frais à verser à l'ICANN ou un octroi d'emprunt ou un autre type de soutien. En termes que le personnel, d'autres choses que le personnel a fait dans ce sens, il y a eu, et je ne me souviens pas depuis quand, il y avait un projet dans la mise en œuvre des GTLD à un certain point. Je sais qu'il y avait un résultat qui disait qu'il y avait des options possibles, mais je ne sais pas si ceci a jamais été complété. Le personnel est vraiment très engagé et je suis sûre qu'il poursuivra son bon travail. Merci, merci Karine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Adam. Deux choses. Est-ce que vous savez combien de candidats il y aura, le nombre de candidats éventuels? Est-ce que vous pouvez deviner? Et qu'est-ce que vous voulez que la LAC vous fournisse comme information? Nous sommes supposés représenter les titulaires de nom de domaine. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier prévoir concernant le nombre de candidatures possibles? Je n'aimerais pas avancer des chiffres facilement. Bon, nous avons des déclarations publiques. C'est très difficile à dire. Nous avons beaucoup de téléphones, de contacts, d'appels téléphoniques exprimant un intérêt. Et il est difficile de dire le niveau de sérieux et s'ils comprennent bien. Il est difficile de dire. Je pense que nous avons utilisé 500, le chiffre de 500, dans la construction et dans l'élaboration du processus et dans la définition des ressources. Donc, une estimation très grossière serait de 500. En termes de ce que nous pourrions vraiment apprécier de la part de la LAC, merci pour la question. D'abord, ce que Evan a dit, je pense, une des zones qui n'a pas été assez accentuée et comment nous pouvons faciliter une participation réellement mondiale. La communication, bien sûr, fait partie de ceci. Donc, faire un programme compréhensible, bâti sur des fondements réalistes, qui présente vraiment une occasion pour toutes les parties du monde. Et je pense que la LAC est vraiment bien distribuée. Et il faudrait tirer parti des connaissances de la LAC. C'est très important. Peut-être un autre point aurait à faire avec la perspective du point de vue de l'utilisateur. Beaucoup d'attention sur le processus d'évaluation, le processus d'objection, les chaînes, etc. Mais le processus va commencer et va finir et il y aura beaucoup, nous espérons, de nouveaux GTLD en fonctionnement. Ce que les registres, les choses que les registres doivent faire par rapport au nouveau GTLD, par exemple, les DNS SCEC, les extensions donc de sécurité, examiner la perspective à long terme, qu'est-ce qui pourrait aider les utilisateurs pour qu'ils participent, voir quels pourraient être les engagements, par exemple, tout ceci serait très intéressant. Une question naïve peut-être, un des problèmes que nous avons eus lorsque les derniers UTLD ont été introduits, c'était les name lang, le logiciel qui n'avait pas été considéré, pris en compte. Est-ce que vous avez parlé avec les services d'application Internet des implications de l'arrivée de 500 nouveaux GTLD? Oui, en fait, ceci m'est venu en tête, à la tête, mais j'y ai pensé. Nous l'avons fait depuis quelque temps dans le cadre du développement des candidatures. Il n'y a jamais assez de sensibilisation dans la communauté. Il s'agit vraiment d'un monde tout à fait divers, tout à fait large. Et il y a beaucoup d'investissements dans l'explication du DNS, quels sont les problèmes, pourquoi c'est important d'avoir un identificateur unique, mondial pour tous. Et c'est spécialement devient un sujet de discussion spécial maintenant que nous avons les IDN, donc les noms de domaine internationalisés également. Et c'est quelque chose, c'est un sujet dans lequel nous devons déployer beaucoup d'efforts. Lorsque nous parlons avec les personnes, avec les entreprises concernant le besoin d'avoir des ajustements techniques, ils ne voient pas vraiment qu'il y a un tel besoin pour le moment. Du point de vue de utilisateur ou consommateur, c'est important, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Nous passons au sujet suivant. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Pourquoi vous êtes silencieux? Mais c'est le moment de vous exprimer. Dites quelque chose. Sinon, nous aurons un outil de guide de candidature finale. Merci. Christopher, si nous pouvons lui donner la parole.
Eh bien, je n'ai pas participé à une réunion depuis le Mexico, donc je ne suis peut-être pas à jour. À Mexique, nous avons eu cette conversation sur la différenciation des coûts, en particulier les coûts de souscription payés à l'avance entre les différentes catégories de nouveaux GTLD, en particulier ceux liés aux services publics et aux services géographiques. Où en sommes-nous maintenant? Parce que hier, j'ai entendu qu'en fait, toutes ces décisions seraient reporté et que pour l'instant nous basons sur l'idée que un seul modèle convient à tout le monde. Mais en fait, ce guide ne fera mention que des GTLD commerciales et que toutes les villes géographiques et les autres questions seraient reportées à la deuxième phase. Donc est-ce que c'est bien correct? Est-ce que vous avez un avis? Eh bien, si j'ai bien compris votre question, je ne pense pas qu'il soit correct de dire que nous ne considérons que les candidats de type commercial lors de la première série. C'est encore le cas. Il n'y a qu'une souscription, un seul type de frais d'enregistrement, quel que soit le type de candidature dont il s'agisse. Donc évidemment, c'est une question qui est souvent posée, c'est-à-dire quelle catégorie que nous considérons et le type de modèle que nous devons élaborer pour ce type de candidature et les changements qui doivent être apportés à l'accord, aux tarifs, etc. Et donc, je pense que c'est l'idée commune que nous essayons de construire un modèle qui convienne à tout le monde, un modèle unique. Mais je ne pense pas que nous essayons de créer un modèle qui convienne à tous et qui soit unique. Au contraire, c'est un modèle qui va essayer de satisfaire différents types de candidatures diverses et variées. Mais en ce qui concerne l'exécution de ce type de modèle, nous essayons de créer des catégories à l'avance. Et à l'avenir, nous verrons différentes catégories émerger que nous pourrons classer dans la catégorie A ou B ou autre. Donc, c'est une sorte de système basé sur l'expérience et c'est celui que nous employons actuellement. Mais si la politique avait pris cette orientation-là, nous aurions pu construire des catégories et nous aurions procédé de la sorte, mais je pense que ceci, évidemment, aurait pris beaucoup de temps. Donc c'est une bonne idée, mais ça prend beaucoup de temps et c'est difficile à réaliser. Et donc l'idée que nous avons encore dans le guide de candidature est une position ouverte, c'est-à-dire qu'il existe des critères et des procédures propres à toutes les candidatures et ils doivent être souples. Et donc, nous devons considérer les différentes catégories qui peuvent être acceptées et nous devons être à même de traiter ces candidatures. Alain ? Oui, deux remarques. En ce qui concerne, premièrement, les noms de domaines géographiques, ce que Kurt a dit hier, et je pense que ceci figure également au guide de candidature et que nous n'accepterons pas des demandes de candidature cette fois-ci de noms de pays et des noms qui font spécifiquement référence à des pays. Les autres noms géographiques, c'est possible, mais en ce qui concerne les catégories, il y a toute une série de catégories qui a déjà été listée, les noms géographiques, etc. Les noms culturels sont traités de façon différente. Pour l'instant, on n'a qu'un seul processus, mais nous avons effectivement toute une série de catégories qui ont été identifiées. En ce qui concerne les différences de prix dans les frais à payer, eh bien, c'est un groupe de travail GNSO et ALAC qui définit les changements à apporter pour ce nouveau tour. Pour ceux qui souhaitent apporter leur contribution, il y a une réunion demain à 2h. Le titre est « La réduction des barrières pour le développement des régions ». Je pense que c'est un mauvais titre parce qu'en fait, il s'agit plutôt de considérer les candidatures des candidats qui ne sont pas privilégiés. Donc, bien sûr, il y en a qui sont des organisations lucratives, d'autres qui ne le sont pas. Donc, je vous invite à nous rejoindre lors de cette séance. Ce sera intéressant. Merci, Fouad. Merci. Oui, Alain nous a déjà éclairé là-dessus. D'autres questions de catégorisation porte sur la définition de cette catégorisation. Par exemple, lorsque vous divisez le monde. Il y a une partie du monde qui est très peuplée et dans laquelle le processus ne fonctionne pas encore bien et ce sera toujours difficile de faire fonctionner les choses dans cette partie du monde. Et lorsque nous attelons à ces questions, en particulier la question du DAC, eh bien, la priorité, c'est encore le facteur de prix. Parce que même à Nairobi, lors du forum public, c'est une préoccupation que j'ai émise. Parce qu'une langue peut couvrir de nombreuses régions. Et lorsque c'est le cas, ça peut provoquer des conflits. Et donc, ça ne consiste pas en une limite de faire l'évaluation aux États-Unis, mais il faut fixer un prix raisonnable. Par exemple, au Pakistan, $1 vaut 85 roupies. Et donc, $185, ça correspond au salaire d'une entreprise, d'une petite entreprise. Donc, évidemment, il peut s'agir là d'une forte barrière. Et ceci empêche certaines communautés de rejoindre l'accès à Internet. Et donc, ceci contribue au fossé numérique. Et au sein du forum DAC, encore une fois, il n'y a pas de pont pour parer ce fossé. Nous contribuons à cette division. C'est très bien de traiter des questions géographiques et des questions culturelles, mais il faut d'abord traiter de la question du prix. Parce que ceci va encore plus retarder le processus d'exécution dans certains des pays. Évidemment, la discussion de demain est nécessaire et intéressante, mais en tant que Efiralo, j'aimerais que nous ayons une véritable discussion sur ce prix. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est là l'occasion de demander des réponses à Karen si nous souhaitons faire des déclarations sur, par exemple, la période de commentaires publics de façon individuelle ou au sein de At Large. C'est à présent de le faire. Ce n'est pas notre faute si c'est pas la faute de Karen si les autres ne nous ont pas écoutés par le passé. Donc essayons d'utiliser le peu de temps qui nous est imparti de façon productive. Il nous reste seulement 40 minutes pour traiter d'un sujet qui mériterait 2 heures. Donc je rends la parole à Sébastien. J'imagine que je dois terminer rapidement, mais dans la question qui a été posée hier, je ne sais pas si la réponse était très compréhensible pour moi. Nous parlions des catégorisations et Bertrand a posé la question de savoir ce qui se passerait lorsque l'on aurait 500 à 800 applications, demandes de candidature. Comment allez-vous les catégoriser? Donc, est-ce que la catégorisation est une bonne façon de les traiter comparée à d'autres techniques de badging? Donc, vous me posez la question ou je ne comprends pas? C'était la demande d'Alan, en fait. On devait vous poser la question à vous. Mais Karen, je sais que parfois, il est aussi difficile d'être la seule personne de la salle parce qu'on suppose que vous savez tout et que vous avez toutes les réponses. Donc moi, j'accepterai si vous dites que vous ne savez pas. Si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas la fin du monde. Je préfère une réponse honnête, je ne sais pas, que du blabla. Merci beaucoup parce qu'en fait, je ne sais pas tout, effectivement. Donc, en ce qui concerne la question du batching, dans la version 4, on donne des fourchettes de temps pour le processus d'évaluation et les périodes à allouer à chacune des étapes. Mais encore une fois, il s'agit d'environ 500. Mais bien sûr, si le nombre est bien plus important que 500, la période allouée devra également être étendue. En ce qui concerne le batching, la question qui revient, c'est que si le chiffre effectivement explose, il faudra avoir des façons de traiter différents batchings à la fois. Et comment le faire? Et donc, c'est quelque peu complexe. Dans la mesure où certaines demandes de candidature devraient être traitées ensemble, par exemple, s'il y a 3 ou plus demandes de candidature pour le même domaine et qu'il y a des considérations de justice, d'équité, c'est-à-dire qui a la priorité, ceci pourrait également constituer une méthode. Pour mettre en œuvre la constitution de différents groupes. Et donc, pour des raisons de transparence, je pense que nous devons établir les groupes à l'avance. Mais malheureusement, nous ne savons pas encore comment nous allons faire les groupes. J'avoue que ce n'est pas encore décidé. Il y a différentes façons et ce n'est pas encore décidé. Merci. Annalisa ? Et après, nous terminons, hein. Bonjour Karen. Ma question porte sur la partie du DAC qui parle des vérifications du passé. On dit que les propriétaires, les officiers et même les membres du conseil d'administration seront contrôlés. Donc, parfois, une entreprise peut posséder une autre entreprise qui en possède une autre, qui en possède une autre. Donc, jusqu'à où va-t-on vérifier? Parce qu'on va vérifier, mais jusqu'à quel niveau? Parce que moi, je ne sais pas comment je vais faire. Merci beaucoup pour la question. Donc, l'information que nous avons pour la vérification des individus qui sont cités dans le domaine de candidature, par exemple le président ou les directeurs, eh bien, sera effectuée par 15% ou plus des actionnaires. Alors, cette vérification individuelle se base sur la méthode que nous employons actuellement pour les bureaux d'enregistrement. Lorsque nous obtenons une demande de candidature, nous leur demandons de nommer tous les différents individus. Et les vérifications de parcours, de passé que nous avons, eh bien, fonctionnent de cette façon. Et pour les autres types de partenariats, c'est-à-dire si une entreprise possède une autre entreprise, eh bien, c'est une question qui est posée dans la demande de candidature. Et toutes les relations, les partenariats doivent être décrit dans la demande de candidature. Je ne pense pas, parce que si j'ai un partenariat avec une autre entreprise, je ne pense pas qu'il s'agisse de demander une vérification pour tous les partenaires de toutes les autres entreprises. Mais bien sûr, les individus qui sont nommés comme à des postes de responsabilité dans cette entité devront subir ce contrôle. Donc la façon dont nous allons le faire, eh bien, nous avons considéré des entreprises qui peuvent effectuer ce type de contrôle, donc des entreprises spécialisées. Donc il faudrait une entreprise dans chacune des régions d'où proviendrait une candidature. Et ce que nous avons considéré en premier lieu, c'était la révision des sources disponible publiquement, c'est-à-dire que si une entreprise a reçu une amende de la part d'un gouvernement ou si quelqu'un a eu une condamnation criminelle, évidemment, ce sont des informations disponibles publiquement. Simplement, il faut disposer des ressources pour pouvoir aller récupérer ces informations rapidement. Et bien sûr, ce ne sera pas facile si je dois faire ça seule. Donc nous pensons effectivement faire sous-traiter ce travail par des entreprises spécialisées. Analyse rapidement, s'il vous plaît. Et donc, cette partie tierce devra disposer des ressources pour vérifier ces informations. La tierce partie que nous allons employer, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Bien sûr, nous aurions des normes avant d'employer cette entreprise, une capacité à gérer un grand volume et un prix raisonnable. Évidemment, qu'il soit qualifié pour nous fournir d'excellents résultats, et ceci dans toutes les régions du monde. Oui, et ma dernière demande de clarification. Donc, vous vérifiez jusqu'au deuxième niveau, l'entreprise qui possède l'entreprise où vous travaillez. Mais s'il y a eu des nuisances financières ou commerciales et que cette entreprise faisait partie de l'entreprise qui possède l'entreprise concernée, vous ne les vérifiez pas ou comment ça fonctionne ? Je ne suis pas sûre, franchement, ce n'est pas forcément très clairement stipulé. Mais clairement, l'entité qui pose sa candidature est vérifiée sur la base individuelle et dès qu'ils nous font part d'une relation commerciale ou qu'ils ne nous en font pas part et que nous la découvrons, eh bien, nous contrôlons également cette entité relationnée avec eux. Donc c'est à moi de vérifier un peu comment nous allons contrôler cette relation indirecte. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'information très précise. Merci Karen. J'aimerais que nous concluions et vous remercier encore de votre contribution. Nous avons encore deux sujets dont nous devons discuter. La RAA, à 11h, nous devons être en haut. Donc la RAA et l'intégration verticale. Une suggestion que nous avons, c'est de ne pas encore parler de la RAA. C'est une suggestion émise par notre président. Et nous proposons que les groupes de travail ALAC et GNSO discutent du document qui existe déjà sur ce sujet. Et j'aimerais que vous y pensiez et nous y reviendrons à la fin de la discussion. Donc nous reviendrons à l'intégration verticale pour la création de ce sous-groupe régional. J'aimerais donc donner la parole à Alan. J'aimerais donner la parole à Sébastien pour décider de quoi nous allons parler lors de la session sur le GAC. Donc j'aimerais, parce que je n'ai aucune illusion, je sais que nous allons sortir de cette réunion sans position unifiée d'ALAC. Mais il serait utile que certains du groupe nous émettent leurs opinions. Je vous dirai quelle opinion a été émise. Sébastien a pris une position très claire pour essayer d'en faire le moins possible parce que nous n'avons simplement pas le temps de trouver les détails portant sur la première série d'identification des candidatures. Donc, il faut peut-être être un peu conservateur ici et faire en sorte que ce qui a été créé jusqu'à présent fonctionne correctement et ne crée pas de nuisances. Et par la suite, eh bien, nous réviserons ces positions. Steve a parlé de l'OFOO, comme il l'appelle, donc le marché libre, aucune limite. Et au cours de la discussion, il a été clair que les nuisances ont été identifiées, également les solutions pour éviter ces nuisances et les pénalité. Ceci avant la rédaction du contrat. Je ne suis pas sûre que nous puissions y parvenir avant le mois d'août parce que les parties n'existent même pas encore pour la négociation. Mais Kurt en a parlé hier très brièvement parce qu'il est en faveur de cette position de libre marché. Pour moi, il existe des tas de parties du côté des entreprises qui pourraient prendre part à cette négociation. Mais je donnerai la parole très rapidement à Karl et ensuite nous aurons la parole pour des commentaires. Juste une petite correction. Je ne parle pas au nom de ces entreprises. Moi, je parle au nom d'une position de principe. Et voici le principe. Je ne crois pas que ça constitue les affaires d'ICANN de définir le modèle d'affaires selon lequel nous devons travailler. C'est un principe clé. Et donc, si on souhaite prédéterminer le type de modèles qui peuvent travailler avec vous, eh bien, en le faisant, vous exercez une limite sur ces affaires, même si vous dites que l'intention était de réduire ou prévenir les nuisances. Parce que vous n'êtes pas en mesure de me dire quel type de nuisance vous essayez de prévenir. Pour moi, vous utilisez une position a priori de ce que constitue une nuisance pour pouvoir vous donner les droits de dire à quelqu'un « Non, vous ne pouvez pas travailler de cette façon. » Je pense que c'est un principe. Deuxièmement, en ce qui concerne tous les autres sujets d'ALAC. Si l'on entend toutes les différentes opinions de chacun sur la propriété, l'appropriation, cette position, cette autre position, eh bien, elles sont tellement complexes que nous ne serons pas à même de satisfaire tout le monde. Donc, si on accepte cette position, c'est en sachant que ICANN n'a même pas l'infrastructure nécessaire pour aborder le problème de conformité. La troisième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, en principe, c'est que si l'on prend la voie de interdire l'accès à certaines associations d'entreprises, eh bien, la base sur laquelle cette interdiction est formulée doit être connue à l'avance. C'est-à-dire la nuisance que cette association en particulier provoque. Alors, quel type de nuisance elle a pu causer par le passé, mais aussi elle causera à l'avenir. Et si l'on considère ce qui est écrit, il est marqué certaines associations, certains modèles d'organisation constituent une nuisance inhérente aux affaires. Et donc, sur la base de ces principes, je ne suis pas d'accord avec aucune des limites sur la propriété.
Deux points très rapides. Je vais souligner que l'ICANN a été créée avec le mandat spécifique de changer le modèle d'entreprise, bureau d'enregistrement, registre. Concernant la conformité, je ne suis pas sûre que j'aime le concept de dire que si nous ouvrons les choses totalement, c'est si compliqué qu'ils ne feront rien en termes de conformité et ils vont l'ignorer. Je pense qu'on peut mettre des règles, que la conformité puisse faire quelque chose. J'ai parlé de règles. Ici, il y a des dommages, des mots que nous connaissons. Par exemple, le premier principe, il ne faut pas être nuisible. Il y a certains que nous ne connaissons pas. Si nous les connaissons, nous allons agir. Pour moi, c'est une chose qui est faisable, que nous pouvons voir, mais une partie du problème, c'est cette chose, cette façon de dire que parce que quelqu'un l'a dit il y a tellement d'années, c'est exact, c'est un oracle. Non. Et c'est pas parce que l'oracle a parlé et donc on ne peut pas ignorer. En fait, je ne suis pas confortable avec cette idée. Ça a déjà été fait. Il faudrait... Je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Je pense que les gens peuvent être bloqués. Les gens, les conseils peuvent faire des erreurs. Et on connaît très bien des conseils d'administration qui ont fait des choses stupides. Vous avez le droit de vous corriger vous-même. Et je pense que dans ce cas, et c'est presque comme si l'on disait que parce que le conseil a pensé d'une certaine manière il y a un certain temps, cette pensée doit exister pour toujours. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'ils peuvent s'être trompés de direction. Le conseil d'administration peut s'être trompé d'orientation, à mon avis. Si vous ne me donnez pas de raison pour dire pourquoi vous ne voulez pas permettre l'intégration verticale, ou s'ils n'arrivaient pas à associer une nuisance spécifique à une organisation spécifique, je ne vois pas pourquoi vous les empêcherez de participer. Je demande aux personnes de parler aussi brièvement que possible, s'il vous plaît, et nous vous donnerons à tous la possibilité de finir vos phrases. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très intéressant au sein d'Atlarge, comment dire ça poliment, à passer beaucoup de temps avec les bureaux d'enregistrement et est en train de considérer maintenant des pratiques qu'elle trouve agressives ou offensives. Il y a une... c'est-à-dire comment il y aurait... comment les gens agiraient. Nous pouvons parler de nuisances spécifiques, mais il y a une précédence. En l'absence de règles de l'ICANN, les personnes peuvent saisir des opportunités, des occasions intéressantes. Je vais dire, suite à Carlton, simplement parce que l'ICANN s'est engagé dans une voie spécifique par le passé, ceci ne nous oblige pas à suivre la même voie. En faisant un pas en arrière, et demander à l'ICANN de se concentrer sur dans les efforts de conformité, sur des choses qui ont rapport avec le RAA, que la régulation des modèles d'entreprise serait une priorité plus spécifique par rapport à nos problématiques. Alan, bon, de toute façon, pour ceux qui m'écoutent, mais Alan, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que ça a été dit, parce que les bureaux d'enregistrement qui étaient dérégulés avaient fait de mauvaises choses. Vous avez dit qu'il y aurait plus de mal s'il y avait une intégration totale. La propriété de 25% à 85% ou etc. Ceci fera une différence très importante du point de vue niveau de nuisance. Ceci est un cas où nous sommes en train de parler de types, de mots différents. Si l'abus ou la nuisance a été faite par l'activité, et je dirais comme Carlton, montrez-moi la nuisance spécifiquement, qui a été créée spécifiquement et qui avait à voir avec l'intégration. Je vais donner un exemple très bref et je vais passer par la suite à Sébastien et Christopher. Un des exemples a été une nuisance exacerbée par la propriété croisée, et c'est le concept de délit d'initié ou front running, c'est-à-dire quand vous demandez un nom de domaine, vous l'enregistrez préemptivement et le vous avez comme source un bureau d'enregistrement qui a un accès aux demandes qui sont faites par les autres bureaux d'enregistrement. Parce que les registres ont également la possibilité de faire de s'adonner à des délits d'initié. Parce qu'ils voient chaque demande qui vient de partout dans le monde. Et il s'agit d'informations très précieuses. Et c'est le genre de choses dont les personnes sont en train de parler. Si vous connaissez toutes les parties, je voulais simplement demander aux membres autour de cette table de parler de ce sujet et de ne pas entrer dans tous les détails. S'il vous plaît, prenez la parole maintenant. Nous avons besoin de votre apport, de votre contribution. Nous savons de quoi nous sommes en train de discuter. Nous avons besoin de vos commentaires maintenant, s'il vous plaît. Si nous allons passer au GAC dans 15 minutes, nous n'avons pas le temps d'épuiser ce sujet de ce matin, ce sujet si vaste. Il y a eu des arguments qui ont été très, très bien exprimés, qui sont nouveaux, qui doivent être examinés. Il y a des questions de limitation. Il y a un autre forum, si j'ai compris, qui s'appelle le groupe de travail d'intégration verticale. Et je ne sais pas lesquels de nos membres participent à ce forum. Le deuxième point est que la société civile, mis à part cette question particulière, a toujours été en haut de la page, de l'ordre du jour des autorités de concurrence aux États-Unis et en Europe. Il y a 10 ans, il y avait de toute façon ce sentiment auprès des autorités de concurrence en Europe que le principe de séparation entre bureaux d'enregistrement et registres faisait partie des conditions prérequises pour l'établissement. Je pense qu'il y a eu des changements, mais certains aspects devraient être reconsidérés, particulièrement par rapport aux registres plus petits et plus spécialisés. Vous ne voulez pas arriver à une situation où VeriSign commence à acheter ses bureaux d'enregistrement et reconstruire et remanipuler les solutions de réseau. Sous le budget des États-Unis, de sciences et de technologies, comme ça s'est passé par le passé. Mais je comprends qu'il y a des politiques et des étapes ont été introduites pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce monopole. Parce qu'avant, c'était le registre unique et le bureau d'enregistrement unique, par exemple, de Comnet et Org. Des politiques ont été introduite pour interrompre ce monopole, pour résilier, pour arrêter ce monopole. Dans cette situation, il ne faut pas introduire des principes qui valideraient, qui conforteraient une tentative des gros registres existants d'arracher tous les bureaux d'enregistrement et de recréer des conditions de monopole. Nous avons 10 minutes pour trouver l'étage numéro 4. Ce n'est pas très facile de retrouver la pièce, quoi. Nous avons quelques minutes pour y arriver. Nous avons encore 10 minutes qui nous restent. Que Christopher a dit, nous avons une histoire de concurrence qui suggère que le monopole est très mauvais. Et nous avons aussi une dominance du marché, .com, a un élément de puissance sur le marché. Vous pouvez regarder GoDaddy, les bureaux d'enregistrement. Il faut considérer également ce niveau. Je voudrais que Atlas se concentre sur l'autre partie, là où nous voudrions permettre l'intégration. Lorsque les registres et les bureaux d'enregistrement ne veulent pas être obligés d'utiliser les modèles courants. Comme Mikey l'a mentionné, certaines des propositions permettent des exemptions importantes pour les petits TLD. Et il y a d'autres choses que vous pouvez faire, beaucoup de choses. Si vous arrivez à un seuil du revenu, un seuil du point de vue nombre de titulaires, etc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Est-ce que nous continuons cette discussion ou bien nous partons vers le GAC? Je voulais seulement dire que je regarde ce graphe et elle montre que l'intégration verticale est très complexe. Il y a beaucoup d'aspects. Ce n'est pas on le fera pas. Il y a beaucoup d'aspects. Et si vous regardez le graphique, il y a toutes ces entités avec ces opinions différentes et qui se sentent différemment. Donc il y a cette table de multiplication, si vous voulez. Et je pense, je me sens vraiment préoccupé par le calendrier des délais jusqu'en août. Je sens que la LAC est encore en train de discuter de nous le ferons, nous le ferons pas, alors qu'en fait, il s'agit d'un compromis. Il faut qu'on regarde toutes ces orientations. Il faut qu'on examine, regarder un peu ce graphique. Toutes les personnes qui vont survivre à ça appuieront sûrement votre avis. Les personnes qui ont été activement impliquées écoutent et disent quelque chose de temps en temps. Ça a été moi, Sharon, Sébastien, Carole et Siba. Je pense que David aussi est sur la liste, mais je ne pense pas que vous vous êtes beaucoup prononcé à haute voix. Les deux points sur la liste avec le GAC. Quel est le nouvel acronyme qui est utilisé? MOPO? Morality et Public Order, moralité et ordre public, et nouveau GTLD. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose sur les MOPO et les nouveaux GTLD avant que nous partions pour la salle et la réunion du GAC? J'ai autre chose à dire. Vous avez de la chapelle à suggérer qu'à un certain point, on devrait passer du DAG à quelque chose qui peut être pris de ce document énorme vers quelque chose que le Conseil peut signer ou voter. Au lieu d'avoir le Conseil voter sur ça, il faudrait peut-être avoir une réunion à un certain moment, en octobre peut-être, où 100 personnes par exemple se réuniraient pendant 3 à 4 jours et essaieraient d'établir un document pour que le Conseil puisse réellement mettre en œuvre ces nouveaux GTLD. Ceci, c'est une suggestion de ma part. Est-ce que ce serait quelque chose que la LAC... serions-nous intéressés par participer à ce genre de choses? Je sais qu'il y a une question de financement, etc., de temps libre. C'est un concept. Est-ce que c'est un concept pour réunir les membres de la communauté et pouvoir avoir un document qui puisse être mis en place, mis en œuvre à la fin des 3 ou 4 jours? Un point d'ordre, un des points de notre ordre du jour était le 3.7.3.3. Bo va écrire quelque chose et va rapporter ce qu'elle aura écrit à la séance de conclusion. Nous avons Evan. J'ai quelque chose à dire à la réunion du GAC. parce qu'il y a une question de calendrier, de délai. Je voudrais, s'il vous plaît, vérifier, que vous vérifiez le courrier que je vous ai envoyé hier. Concernant les événements de TI de par le monde, trois grosses organisations, manifestations de technologie de l'information qui vont se passer autour du monde, de par le monde. S'il vous plaît, vérifiez votre messagerie. Je dois répondre à Barbara cette semaine. J'aimerais avoir des idées. Si vous avez des objections, je vous prie de m'en parler en personne. Sébastien, vous avez quelque chose à dire sur ce point? Je suis désolée, mais je voudrais dire deux choses. D'abord, concernant le processus, j'aurais été très heureux d'avoir cette discussion avant d'aller à Rhodes. Et ceci ne pourrait pas être une activité à large, parce que vous avez beaucoup d'entrepreneurs. Et si c'est fait quelque part, ça doit être fait en commun avec un regroupement d'entreprises. Et personnellement, je ne pense pas que c'est le meilleur endroit pour que nous, les organisations d'utilisateurs, soyons présents. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. J'aimerais bien en discuter de manière approfondie avant que nous sortions, avant de dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je suis désolée de m'exprimer ainsi maintenant. Mais si c'est une histoire, une question de show, et qu'il y aura beaucoup plus d'entrepreneurs, et que nous voulons donc avoir plus de sensibilisation, cela devrait être fait en collaboration avec l'ICANN et non seulement de la part d'Atlarge. Merci.
Hong wanted a quick comment.
Hong voulait un commentaire rapide. Je voulais parler d'une autre question, pas de celle-là. Est-ce que ça a un rapport avec le GAC? Oui. Très rapidement, s'il vous plaît. Nous devons quitter la pièce dans une minute. Je voudrais parler, je ne sais pas, vous allez parler de cette question du traitement. Il y a quelques changements qui ne vont pas dans l'essence. Jusqu'à l'essence. Je vois un problème dans les procédures. Ils font un résumé des commentaires. Et pourquoi il y a certains commentaires qui sont inclus dans le DAC et les autres n'ont pas été inclus? Pourquoi certains commentateurs étaient mentionnés en tant que personne avoir exprimé des commentaires et d'autres non? C'est une question de procédural. Je suis pas sûr que c'est une question qui concerne le GAC, mais c'est une question importante, oui. Bon, que nous le voulions ou pas, nous devons partir. Nous vous prions de prendre vos cartes avec vous. Nous revenons dans la pièce à 16h30 et Gisela va vous guider jusqu'à la pièce numéro 400.